Shalom chez vous et bienvenue à cette formation où nous allons étudier pour cette saison l'un de mes livres favoris de mon auteur favori qui est pour moi un mentor que vous devez sûrement connaître. Son nom c'est le docteur Maurice Monroe. Paix à son âme, qui continue de vivre avec nous au travers de ses manuscrits, au travers de ses livres, au travers de toute la connaissance que Dieu a déposée en lui quand il était sur la terre. Et le livre est intitulé « Single, Married, Separated Life After Divorce ». En français, ça donne « Célibataire, marié, séparé et la vie après le divorce ». Nous allons étudier ce livre qui va nous permettre de comprendre l'importance de chaque saison dans laquelle nous sommes. Que ce soit la saison du célibat, la saison d'être marié, la saison d'être séparé, la saison de la vie après le divorce. Et quelqu'un peut demander, mais personne ne veut être séparé, personne ne veut vivre une vie après le divorce. Pourquoi comprendre ces autres aspects? Ces autres aspects sont aussi importants parce qu'ils permettent de savoir qu'est-ce qui se trouve de l'autre côté du tunnel et est-ce qu'on veut y arriver ou pas y arriver. La question nous reste posée. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour ta vie en nous. Merci pour tes hauts faits et tes bienfaits. Merci pour ce cours. Enseigne-nous, Seigneur. Permet que nous puissions comprendre, Seigneur, les vérités cachées dans ces paroles. Permet que nous puissions aussi les appliquer à nos vies dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Le premier chapitre parle du mythe du célibat. Le célibat est-il un mythe ou pas? Plusieurs personnes ont peur de rester célibataire parce que le célibat a été pour beaucoup de temps montré comme une malédiction, montré comme quelque chose à ne pas y être, montré comme voilà du genre une mauvaise saison, un mauvais endroit à être. Et nous allons voir le mythe du célibat avec Maurice Monroe. C'est bien d'être célibataire, mais ce n'est pas bien d'être seul. Il nous apprend ici. C'est bien d'être célibataire. Il y a une différence entre être célibataire et être seul. En anglais, ça donne « being alone and being lonely ». Ma secrétaire a sonné pour dire que mon prochain rendez-vous était arrivé. C'est le docteur Maurice qui parle. J'ai marché jusqu'à la porte pour rencontrer et accueillir la personne qui, jusqu'à ce moment, n'avait été qu'un nom dans mon carnet de rendez-vous. Une belle jeune femme, habillée proprement et intelligemment, entra et s'assit. Elle lâcha soudain. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée d'être célibataire. J'ai besoin d'un compagnon maintenant. Je vieillis et la vie me dépasse. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi aucun homme? Suis-je moche? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec moi. J'ai envie de me suicider. Aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que ce sont des questions qu'une fois tu as pu te poser? Est-ce que ce sont des questions qu'une fois nous nous sommes posées? Parce que à l'attente d'un compagnon, à l'attente d'un homme, à l'attente de la prochaine étape dans notre vie, on se pose tellement de questions. Je me souviens quand j'étais encore célibataire et que j'avais hâte de passer à la prochaine étape. Pourquoi? Parce que c'est le next thing to do, c'est la prochaine chose à faire. C'est ce que la société nous dit. Voilà, tu arrives à un certain âge, soit tu travailles, tu as acquis certaines choses, la prochaine étape après l'école et le travail, c'est de former une vie avec quelqu'un. Mais avec qui? Peut-être tu te retrouves dans la même situation et tu te poses toutes ces questions comme cette dame. Ces mots ne m'étaient pas étrangers. Je les avais entendus beaucoup de fois au fil des ans. J'ai dû aider des milliers de personnes à trouver leur équilibre et revoir leur conception de la vie. Alors, j'ai partagé avec elle le mythe du célibat qu'il va partager aussi avec nous au travers de son ouvrage. Je me rappelle à cette époque, tellement j'en avais marre, j'ai fait un post sous l'inspiration, on dira. Mais je ne pense pas qu'à cette étape, j'en avais autant marre qu'aujourd'hui, je l'exprime. Quand on dépasse l'étape, on se dit « Ah, peut-être que c'est ce que tu éprouvais. » Mais le post disait, et c'était en anglais, « I am tired of longing, I want to belong. » Donc, tous ceux qui me suivent depuis, ont dû voir ce post qui disait « I'm tired of longing. » Longing, c'est quoi? C'est d'errer, c'est d'attendre, c'est de... Voilà. « I want to belong, je veux appartenir. » sans connaître les responsabilités, sans connaître les hauts et les bas d'appartenir. Mais on va voir tout ça. Ce qui est sûr, c'est un mystère, l'apôtre Paul dit, et c'est intéressant. Donc, le docteur Mass Monroe continue en disant, « Il y a un mythe ou une conception erronée du célibat. En fait, les gens n'ont pas de problème de célibat. Ils ont un problème entièrement différent, appelé être célibataire. » Est-ce que nous sommes d'accord? Partagez-moi dans les commentaires, dites-moi sur notre plateforme où on s'écrit. Et dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec lui qui dit, « Ils n'ont pas de problème de célibat. » Ils ont un problème avec le fait d'être célibataire, avec ce qu'on appelle être célibataire. Où les gens vont te demander, tu te maries quand? Telle personne s'est mariée, tu attends quoi? Tu te maries quand? Parce que si on veut bien fouiller, on n'a pas de problème à être nous-mêmes et vivre avec nous-mêmes. Et voilà, parce que parfois, voilà, on peut se sentir seul, mais au fond, tu ne veux pas que quelqu'un dérange tes habitudes, ta paix, ta façon d'être, etc. Mais on a un gros problème qui est très différent, qui s'appelle être célibataire. Certaines des choses dans ce livre peuvent vous choquer, mais s'il vous plaît, gardez la lecture jusqu'à ce que vous exploriez tout le contenu de ce livre. Célibataire, marié, séparé et la vie après le divorce. C'est le titre du livre. C'est en anglais pour ceux qui veulent s'en procurer et lire d'avance pour que nous puissions échanger à chaque fois. Il continue en disant, considérons d'abord le concept de cette escroquerie permanente qui semble contrôler et influencer tant de vies. Est-ce qu'on est d'accord que c'est une escroquerie permanente? Moi, j'ai ri quand j'ai lu cette partie parce que là, on parle du mythe du célibat qui est une escroquerie, voilà, qui est une anaque et tout. Mais je me rappelle quand je me suis mariée, mes premiers mois, voilà, quand j'ai vécu le choc de la différence, qui est très différent de ce que la société peint, de ce que les films, télé, novellas et autres, Hollywood et Nollywood nous montrent, qui est très différent des contes de fées, qui est très différent de tout ce qu'on connaît ou tout ce qu'on a grandi avec. Quand tu rencontres ce choc, ou bien quand tu confrontes voilà, cette réalité, tu te dis, c'est une grosse arnaque. Mais là, le docteur parle d'abord du célibat qui a été considéré comme une escroquerie, comme une arnaque permanente qui semble contrôler et influencer tant de vies. Qu'est-ce le célibat? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce le célibat, selon vous? Répondez d'abord, dites-moi dans les commentaires et ensuite je vous donne la définition ici. Ici, il demande que signifie le célibat, que signifie être célibataire. La définition du dictionnaire contiendra ces mots ou des synonymes, être séparé, être unique et entier. Aimeriez-vous cesser d'être entier? Aimeriez-vous cesser d'être une personne unique? Aimeriez-vous perdre votre identité? Bien sûr que non. Alors, quel est le problème avec le célibat? Le célibat, c'est quoi? Il nous explique que le célibat, c'est être à part, être séparé, être unique, être entier. En anglais, on dit être whole, être holistique. C'est ça, le célibat. C'est ça, être single. En anglais, on dit être singular. C'est quand on singularise quelque chose, on le met à part. Mais je pense qu'en français aussi, on singularise quelque chose, on met cette personne à part, on distingue cette personne. C'est ça, être single. C'est ça, être célibataire, que le français a traduit en célibataire. Mais je pense que être singularisé, ça nous montre davantage le sens propre du mot et du concept. Il n'y a pas de problème. Le problème est avec notre définition qui nous a été donnée par un système socio-économique culturel sous la domination de Satan, le dieu de ce ordre mondial. 2 Corinthiens 4, verset 4. La définition du monde que l'Église a adoptée ouvre la porte à la souffrance. Est-ce que nous sommes d'accord? La définition du monde que l'Église que nous sommes et que nous appartenons à adopter du monde fait que nous souffrons de ce concept de singularité, de singleness, de célibat, au rejet et même à la haine de soi. Ça nous arrive de nous rejeter à cette étape de, voilà, de vouloir dépasser même, on ne veut même pas la vivre. Moi, je trouve que c'est la meilleure étape. Mais encore, quelqu'un dira, souveraine, tu as dépassé, c'est pour ça que tu dis ça. Attends, tu vas voir. Nous avons confondu le célibat avec être seul. Y aura-t-il jamais un moment et il y a-t-il jamais eu un moment où vous cesserez d'être séparé, d'être unique et d'être entier? Il nous dit ici qu'il n'y aura pas de moment où tu seras... Voilà, ça sera toute ta vie, c'est normal. Donc, il faut connaître la différence entre singulariser et être seul, ou célibataire et être seul. Devrait-il avoir un moment où vous cessez d'être un être unique, qui est unique et entier? Votre réponse est non. Alors, la question suivante est, se marier fait-il disparaître cette définition du célibat? Non. Est-ce que ce mari-là, ça t'évite d'être singularisé ou singulier? Non. Parce que quand tu es marié, tu es toujours single. Tu es toujours singulier, singularisé ou quel autre synonyme donner à cette définition? Quand tu es marié, le docteur Mars Monroe nous explique que tu es toujours célibataire. Parce que célibataire, là, c'est le fait d'être unique. C'est ce qu'on dit single. C'est le fait d'être holistique, d'être whole. Tu as tous tes composants. Mais vous allez comprendre alors que nous parcourons cet ouvrage. Lorsque vous vous mariez, cessez-vous d'être célibataire, qui signifie cessez-vous d'être unique et entier? Pas du tout. De plus, la Bible n'enseigne pas que le célibat est mauvais. Donc, éradiquons cette fausse connaissance ou cette fausse acquisition d'où nous pensons que le célibat est mauvais. Pas du tout. C'est négatif et c'est malsain de penser ça. Si un état de célibat signifie être unique et entier, alors être totalement célibataire devrait être l'objectif numéro un de tout chrétien. Donc ici, pour un francophone, ça peut ne pas être automatiquement compris parce que sa conception de célibataire ou de célibat, c'est le fait de ne pas être marié et désespérément vouloir être marié. C'est ce qu'on comprend, mais non. Ici, on nous enseigne, on nous fait comprendre que être célibataire, c'est un état et c'est quelque chose qu'on le sera toujours parce que ça veut dire être singulier. Tu seras toujours singulier, tu seras toujours unique. Ça veut dire être à part, ça veut dire être entier. C'est ce qui te définit. Nous continuons. En fait, je veux vous faire comprendre dans ce livre que personne ne devrait se marier avant d'être totalement célibataire. C'est un état d'esprit. Ok? Moi, j'ajoute. Jusqu'à ce que vous soyez une personne séparée célibataire unique à part entière. Vous n'êtes pas en fait prêt à vous marier. C'est très clair. Tant que vous n'avez pas encore cette conception de je suis unique, je suis entière, je ne dépends pas de X ou Y, c'est ça être single, c'est ça être célibataire. Que mon bonheur n'est pas dépendant des circonstances d'autrui. Je suis moi-même responsable de ce qui procure en moi la joie, le bonheur. Quoi d'autre qu'on recherche pour se marier, puis on pense que c'est quelqu'un d'autre qui va nous donner ça. Pas du tout. Tu es entière. Tu n'es pas moitié et tu cherches ta moitié. Non, tu es entière et tu cherches quelqu'un avec qui vous allez vous complémenter et non vous compléter. Très important. Les conseillers conjugaux, qu'ils soient chrétiens ou laïcs, vous diront que 99% des problèmes conjugaux surviennent parce que un mari ou une femme ou les deux ne se considèrent pas comme des individus uniques et dignes. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes. Quelle est l'image que tu as de toi-même? Est-ce que tu vas transporter d'une étape à une autre? L'étape de célibat, c'est comme être au CM2 et on a hâte d'aller en sixième. C'est-à-dire à l'autre étape où on n'est plus au primaire et on est au secondaire. Et là-bas, on va porter un autre uniforme, on sera vu comme des grands, on va faire d'autres choses, etc. C'est juste une étape et on oublie que chaque étape vient avec des responsabilités. Ou encore, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce système, c'est être en terminale, c'est-à-dire dernière année de... avant d'aller à l'université, dernière année voilà, de secondaire, et on a hâte d'aller à l'université, loin des parents, faire ce qu'on veut, etc. Mais là-bas encore, on rencontre d'autres responsabilités auxquelles soit on n'était pas prêt, soit on ne s'est pas préparé, soit quoi d'autre, on n'a pas envie parce que voilà, ça, la vie d'adulte, elle est difficile, etc., etc. Mais c'est le même concept. Ici, on nous dit, c'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes ou qu'ils sont schizophrènes d'une certaine manière et pas entière. Ou qu'ils ne sont pas séparés, mais dépendent toujours d'une autre personne pour les rendre heureux. Il faut que tu ne dépendes que de Dieu et de toi-même pour te rendre heureux. Ce que tu traverses, quelle que soit ta situation, tu es le premier responsable de ton bonheur. Écris avec moi, je suis le premier responsable de mon bonheur. C'est très important. Ce que je dis, c'est que jusqu'à ce que vous soyez vraiment célibataire, vraiment singularisé, vraiment single, le mariage sera une expérience difficile et peut-être négative pour vous. Votre mariage s'améliorera à mesure que vous deveniez plus célibataire, le docteur Mars Bondreau nous dit. Je m'efforce d'être vraiment célibataire et je crois qu'au lieu de fuir le célibat, vous devriez courir vers le célibat. Cependant, faisons comme toute personne sage devrait faire à propos de chaque sujet et voyons ce que l'auteur et le créateur du produit a à dire. Et le produit, c'est cette institution qu'est le mariage et l'auteur et le créateur, c'est Dieu. Le point de vue de Dieu sur le célibat. Dans Genèse 2, 18, Dieu a-t-il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. 8. Mais est-ce qu'il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit célibataire? Il y a une différence. Non. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'avait aucun problème avec la séparation de l'homme, la singularisation de l'homme. L'unicité ou être unique, on va appeler ça comment, de l'homme, son unicité ou son intégrité. En fait, Adam ne savait pas qu'il était seul. La déclaration de Dieu était fondée sur sa propre observation de la situation, sur sa propre sagesse. Et parfois, quand on enseigne Genèse 2, 18, on aime bien dire que c'est Dieu qui s'est dit. Il n'a même pas dit à l'homme. Il a dit à lui-même qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Et c'est lui-même encore qui a voulu lui faire une aide semblable. Mais aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est que nous-mêmes, on veut se dire qu'il n'est pas bon qu'on soit seul parce que notre âge avance, parce que voilà, la société nous dit quand est-ce qu'on va venir manger du riz chez toi? Quand est-ce qu'on va venir manger à checker à ton mariage? Quand est-ce qu'on va venir faire ci ou ça? Pourquoi tu tries les hommes? Pourquoi tu ne te décides pas à te marier? Alors que au premier homme avant, alors que au début, au commencement, c'est Dieu lui-même qui s'est dit à lui-même. Il faut que Dieu reconnaisse qu'il n'est pas bon pour toi d'être seul. Et ce que je vais ajouter ici, c'est que ça se travaille. Il y a beaucoup de choses qui se travaillent. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul, c'est parce qu'il a réalisé qu'Adam était prêt. Mais nous, on ne veut pas travailler notre comportement, notre caractère, notre unicité, notre singleness, notre... beaucoup de choses qu'il faut travailler avant d'exposer notre nudité ici, dans ce contexte de caractère et de comportement, à quelqu'un d'autre. Vous allez voir qu'au cours de nos cours, au cours de la lecture, on verra que Mars Ponro dira « Si tu sais tout ce que tu sais de toi, te marieras-tu » Est-ce que toi-même tu vas te marier, même si tu connais tous tes trucs? Il explique « L'implication est qu'Adam était si totalement unique et si entier qu'il n'a pas manqué, qu'il n'a manqué à personne. Il était si ensemble, il était si whole, il était si holistique. Tous les autres aspects de sa vie, là, ça correspondait. Il était épanoui de lui-même, heureux. Il était fondé en Dieu. Il était tout ce qu'il doit être. J'ajoute ici, il était si complet. Il faut que tu sois complet pour complémenter quelqu'un d'autre. Ça, c'est un bon point. Il faut que tu sois complet. Mais tu n'es pas complet. Et puis, tu veux quelqu'un qui va te compléter. En lui-même, qu'il ne savait même pas qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. Et c'est là que Dieu envoie quelqu'un. Quand tu réalises que voilà, tu es heureux de par toi-même, tu es épanoui, tu es entier, tu es complet, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te faire. Dieu te fait, toi-même tu te fais. C'est là que Dieu se dit, ouais, cette personne elle est prête à aller servir quelqu'un d'autre. Cette personne elle est prête à aller complémenter quelqu'un d'autre. Cette personne elle est prête à aller faire ci et ça à quelqu'un d'autre. Parce que le mariage, c'est faire ce qu'on fait à quelqu'un d'autre. Et non, nous-mêmes en tirer des profits et des trucs. Si tu veux te marier pour être heureux, tu vas être malheureux. On ne se marie pas pour être heureux. On nous a tellement dit, on n'a pas cru. Tu vas rentrer, tu vas croire. Tu vas voir. C'est important et c'est mieux de se préparer maintenant. Et il continue en disant, avoir un compagnon n'était pas l'idée d'Adam, mais celle de Dieu. Une autre chose que vous devez voir est qu'Adam n'avait pas besoin d'une épouse. C'est une autre idée fausse que nous avons reçue de la tradition, de la culture, j'ajoute, de la société. Une pensée erronée. Il n'avait pas besoin d'une épouse. Et j'ai observé, quand vous regardez beaucoup de témoignages des gens, c'est quand ils n'ont pas besoin de ça que Dieu envoie. Un exemple ici qui peut nous faire comprendre, c'est que quand quelqu'un n'a pas besoin d'enfant nécessairement, ou la personne, sa pensée n'est pas dessus, voilà, il pense à autre chose, il ne se stresse pas dessus, c'est là que la personne tombe enceinte. Je crois que ça doit être une loi de la nature. Et ça, on voit cette application ici. L'auteur continue en disant, Dieu n'a pas dit, Adam n'est pas un être entier, donc je vais faire de lui une femme pour le compléter. Est-ce qu'on se communique? Essentiellement, Dieu a dit, je vais faire de lui un assistant compatible, une aide convenable. Ou comme lui, un autre être qui le complétera et sera complété par lui. C'est ce qu'on fait là-bas, dans le mariage. Est-ce qu'en ce moment-là, tu es prêt à compléter quelqu'un? Parce que toi-même, là, tu es complet. Ou encore, il te manque certaines qualités, certaines skills. Est-ce qu'il te manque certaines choses pour être complet? Et c'est Dieu qui nous complète d'abord ou qui nous rend complet. Le mariage est venu quelques versets plus bas. Nous mettons le verset mariage au verset 18 quand il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verset 18 nous dit simplement que Dieu a créé un deuxième être humain. Au verset 22, Moïse a écrit que Dieu a créé une femme à partir de la côte d'Adam. Certains disent que le mot hébreu est vraiment une cellule. Il l'a présenté à l'homme. Donc l'auteur dit, d'autres disent que c'est une cellule que Dieu a utilisée, d'autres disent que c'est une côte. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu a créé un deuxième être humain, non seulement pour qu'Adam se marie, mais pour qu'il ne soit pas seul. Par conséquent, vous n'avez pas besoin de vous marier pour ne pas être seul. Tout à fait. Tout ce dont vous avez besoin pour ne pas être seul est d'avoir d'autres humains pour être vos compagnons et amis proches. Est-ce que tu veux te marier parce que tu te sens seul, alors que tu as ce qu'on appelle la communion fraternelle? Tu as des amis, tu as la famille, tu as beaucoup de choses. On ne se marie pas parce qu'on cherche de la compagnie. Parce que si tu te maries sur cette base, le compagnon que tu risques de choisir va te dégoûter. J'ajoute ici. Beaucoup de gens ne sont pas mariés et pourtant ne sont pas seuls. Nous devons donc cesser de faire pression sur les célibataires pour qu'ils s'engagent dans quelque chose qui pourrait les empêcher d'atteindre l'objectif du célibat total. Le mariage n'a pas été institué comme vous pouvez le voir à partir de l'attitude de Dieu dans Genèse 2 pour résoudre le problème d'être seul et d'être humain, créé pour répondre à ce problème. Dieu a présenté Ève à Adam. En d'autres termes, au début, il n'a pas donné Ève à Adam comme épouse. J'aime ça. Au contraire, il a présenté à Adam une compagne qui lui convenait parfaitement. Adam n'était pas seul dans le sens d'être sans une sorte de compagnie. Il avait beaucoup de compagnie là-bas, il avait beaucoup d'animaux, il n'était pas seul. Regardez les versets juste au-dessus où il est dit que pour chaque chien, il y a un autre chien ou une chienne. Pour chaque poisson, il y a un autre poisson. Pour chaque oiseau, il y a un autre oiseau. Mais pour l'homme, il n'en avait pas un autre comme lui. Est-ce qu'il faut rechercher aussi quelqu'un qui est comme toi? Mais on va y arriver. Ève n'a pas été créée d'abord comme une épouse, mais comme un autre Adam. Comme un autre, comme Adam. Qui serait d'abord une compagne, puis plus tard une épouse. Tout ce dont vous avez besoin pour ne pas être seul, c'est de trouver quelqu'un d'autre comme vous. Et il y a environ 5 milliards de personnes comme vous. Sur terre aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de les épouser tous. Ou l'un d'entre eux pour vous ne pas être seul. Vous avez juste besoin d'être un compagnon avec certains d'entre eux. Bon, la traduction parfois. Mais je pense qu'on se comprend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et quand on aura notre entretien global, on va discuter dessus. Échangez, parlez, écrivez vos questions. Le mariage ne résoudra pas la solitude. Dis avec moi, le mariage ne résoudra pas la solitude. Pour ceux qui prennent des notes, écrivez, le mariage ne résoudra pas la solitude, je t'assure. Parce que tu peux être marié et te sentir plus seul même qu'avant. ça ne résout pas la solitude. Beaucoup de gens sont mariés maintenant et les mariages ne fonctionnent pas. Ces personnes prient pour se libérer d'hommes dans des lits séparés, opèrent dans la tension à la maison. Des mariages comme ça créent plus de solitude. Beaucoup d'entre eux sont si misérables que c'est comme vivre des tourments. Oui, tout le temps, le mariage n'est pas la réponse au fait d'être seul. Un jour, j'étais dans un salon de coiffure et il y avait une discussion sur le mariage qui se passait où ces jeunes dames non mariées, je me demande si elles sont célibataires, parce qu'aujourd'hui on comprend que le célibat c'est un autre état, un état d'esprit où il faut être entier, complet, holistique, etc. Et là, cette jeune dame disait, et je pense que c'est un fléau de la société, où elles veulent se marier. Elles ont regretté avoir des enfants en mariage, chose qui est importante de regretter parce que c'est important si tous les trucs sont réunis, tout, voilà, de le faire comme Dieu veut. C'est très important. Mais elles expliquaient leur expérience et elles disaient que même si elles tombent sur quelqu'un aujourd'hui qui va les frapper, elles vont décider d'être dans ce foyer parce qu'elles seront plus respectées aux yeux de dehors, aux yeux de la société, aux yeux de la famille, aux yeux de l'entourage, parce que là, elles sont dans le foyer. C'est une réalité qui est triste parce que tu décides même d'être fouettée et chicotée. Tu te diminues dans ta valeur et dans ce que Dieu t'a créé à être, parce que tu veux être dans le foyer. Ici, il y a des mariages qui rendent plus seul même que le célibat. L'auteur continue en disant, « Si on vous a appris à opérer dans la foi, ne soyez pas trop rapide pour réclamer une personne spécifique comme mari ou femme. Dieu seul présente le choix et tu choisis. » J'aime ça. Dieu se le présente, tu choisis. Laisse Dieu te présenter et tu choisiras. Et j'aime l'aspect tu choisis parce que beaucoup de gens veulent que Dieu choisisse pour eux. Dieu ne va pas choisir pour toi. Dieu ne choisit pas pour quelqu'un. Même Adam, même Dieu n'a pas choisi pour lui. C'est lui-même qui a choisi. Dieu a présenté. Donc enlève dans ta conception, brise cette image erronée de Dieu va choisir mon mari pour moi. Cet homme tu vas choisir parce que qui tu choisis là, tu vas subir les avantages et les inconvénients. J'utilise le terme subir parce que il y aura des choses à voilà à endurer, à traverser. Ça fait partie de la vie. Le mariage c'est comme les hauts et les bas de la vie. Il y en aura. C'est pas que le sucré, c'est pas que les photos sur Instagram, c'est pas uniforme. Un jour, j'ai vu le statut d'une jeune fille qui disait « J'ai hâte de me marier, on va porter tel habit, on va faire tel uniforme. » Ça va faire rire et ça continue de me faire rire parce que ça dépasse l'uniforme. L'uniforme là-même va t'énerver même si tu n'as pas « the right mindset ». D'où beaucoup disent que c'est pour les matures, où il faut une maturité. C'est important. Dieu seul présente, tu choisis. Dis avec moi, je choisis. Choisis bien. J'aime dire, choisis bien ta tête. Pour éviter les maux de tête. Choisis bien ta tête en tant que femme ici. Parce que l'homme représente la tête de la femme. Comme Christ est sa tête. Donc, choisis quelqu'un qui a Christ pour tête. Sinon, il sera entêté. Vous remarquez dans la Genèse que le vrai modèle de Dieu est que Dieu a présenté la femme à l'homme. vous pouvez prier pour un mari ou une femme, mais ensuite attendre que Dieu le présente. Très important. Il est essentiel de noter que Dieu ne l'a présenté qu'à l'homme, ne l'a pas choisi pour l'homme. Il a préservé le pouvoir de l'homme de choisir en la présentant simplement. C'est l'homme qui va choisir. Et même le plus grand cadeau de l'humanité, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, même le plus grand don de l'humanité ou à l'humanité, là, Dieu n'impose pas à quelqu'un. C'est l'homme qui choisit Jésus. À plus forte raison, femme qui est temporaire sur cette terre et Jésus qui est éternel pour notre éternité. Dieu n'impose pas à quelqu'un. Donc les gens qui disent que Dieu a choisi ma femme, c'est une manière de parler. Sinon, Dieu n'a pas choisi pour toi. Il t'a présenté, tu as fait ton choix comme un être responsable. Parce que là-bas, il faut être responsable. Il y a tellement de responsabilités. Dieu présente l'homme choisi. Dieu nous a donné un free will, c'est-à-dire un libre arbitre. Il ne va pas t'imposer un mari ou une femme. Pour que demain même tu dises que c'est le mari que tu m'as donné. Lui-même, là, Adam même, c'est lui-même qui a choisi, hein, mais il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Tu vois l'homme comme ça. Mais ça, c'est une parenthèse. Adam a pris la décision, il a choisi. Essentiellement, Dieu ne choisira pas votre compagnon pour vous. Car s'il le fait, cela violera votre volonté et votre pouvoir de choix. Très important. En fait, si Dieu choisissait votre compagnon pour vous, non seulement il violera ou il violerait votre droit de choisir, mais il prendrait la responsabilité de votre relation. S'il échouait, le blâme pourrait être transféré à Dieu. Même Adam, même que c'est lui-même qui a choisi, quand Dieu a présenté la même là, il a blâmé Dieu. Maintenant, si Dieu va choisir pour nous, hein? Ce point est crucial car j'ai conseillé de nombreuses personnes qui ont été égarées par l'idée fausse que Dieu n'a créé qu'une seule personne spécifique sur cette planète pour qu'elle se marie. Ça, c'est une idée fausse. Il n'y a pas une personne pour une personne. Donc, une autre idée à effacer, une autre pensée erronée. Imagine, si tu as une personne meurt, tu as marié là, une personne de quelqu'un d'autre, et que le quelqu'un d'autre, là, il va faire comment se marier parce que ça, une personne que tu as mariée n'est plus là. Ça ne marche pas comme ça. Ici, il continue en disant, pensez au danger d'une telle pensée. Cela signifie que les chances sont de 1 à 5 milliards pour que vous trouviez le bon. D'autres sont allés jusqu'à utiliser la prophétie pour justifier cette idée fausse. Si Dieu le veut et l'a fait, a choisi un individu sur les 5 milliards de la planète juste pour vous et l'a fait à votre insu et permission, en parenthèse, et sans celle de l'autre personne, alors pourquoi ne choisirait-il pas le salut pour vous? C'est un domaine que beaucoup n'y pensent pas et c'est un domaine beaucoup plus vital de votre vie si Dieu devait imposer un choix. Ça allait être celui du salut. Mais ça encore, il ne l'impose pas. Après, Dieu violerait nos droits de choisir dans un tel cas. Pourquoi pas dans une relation éternelle et céleste avec lui et tout ça. Donc, il exprime davantage que Dieu ne viole pas notre volonté. En ce qui concerne le choix d'un compagnon pour la vie, vous devez comprendre que vous avez le pouvoir de choisir de vous-même, d'exercer ce choix-là sur de nombreux individus que Dieu vous présentera au cours de la vie, que la vie vous présentera. que vous utilisez ou non la parole, la sagesse, les caractéristiques de la nature de Dieu pour faire ce choix. C'est ce qu'on doit faire. On doit utiliser la parole de Dieu, la sagesse, les caractéristiques de Dieu pour faire ce choix. Le discernement, pas d'autre. Avoir un œil dans la prière et un œil dans l'observation. Vous devez assumer la responsabilité de votre choix et de toutes les conséquences qui en découlent. C'est le docteur Mars Monroe qui dit. Ne devenez pas trop spirituel, effrayant ou irrationnel à cet égard. Rappelez-vous le vieil adage. Quel que soit le lit que vous choisissez, vous devez également y dormir. Ça veut dire quoi? C'est un adage en anglais. On dit, as you make your bed, you lay in it. Comment tu fais ton lit là? C'est comme ça que tu vas dormir dedans. Donc c'est comme ça aussi, le choix du mariage, ou même le mariage, à ne pas prendre à la légère. Qu'est-ce que tu investis dedans? C'est le résultat que tu vas récolter. Fournir des perspectives est la responsabilité de Dieu, mais choisir un compagnon est le vôtre. Comptez sur l'aide du Saint-Esprit, mais n'essayez pas de lui transférer la responsabilité du choix. Très important. Que signifie seul? Quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon pour Adam d'être seul, le mot utilisé a trois définitions fondamentales majeures. Exclusive, isolé, solitaire. Supposons que nous lisions ce que Dieu a dit selon cette définition. Il n'est pas bon que l'homme soit exclusif, il n'est pas bon que l'homme soit solitaire, il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Pour résumer le point de vue de Dieu sur le célibat, je vais utiliser une illustration d'un trousseau de clés et d'un trousseau de clés. Si vous en avez, sortez-le. Regardez ça, chaque clé est unique, séparée et entière. Mais toutes les clés sont reliées à un anneau commun. Les touches sont uniques, mais pas seules. Il est donc possible d'être célibataire et pas seul. Dieu n'a pas dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être unique, d'être séparé, d'être entier, d'être singularisé, j'ajoute. En fait, Dieu aime tellement l'unicité qu'il n'a pas permis à deux êtres humains sur tous les milliards qui ont vécu et Dieu leur a donné des empreintes digitales identiques. Ok, l'auteur ici nous fait comprendre que Dieu aime tellement l'unicité qu'il a dans notre conception, dans notre création, il nous a donné à chacun d'avoir une identité unique, des empreintes digitales uniques. De plus, il y a d'autres choses sur les êtres humains qui ne sont jamais reproduites chez d'autres êtres humains, comme les modèles de rétine oculaire, les cellules d'ADN, ou la teneur en sperme des hommes. Notre conclusion doit être que Dieu n'aime pas seulement l'unicité et l'intégrité ou l'intégralité ici. Il insiste sur elle dans ses créations. Donc on voit ça même depuis les créations. Il est donc vital pour vous de comprendre ce qu'est le célibat, ce qu'est séparé, unique et entier. Que c'est plus essentiel et c'est le fondement non seulement des relations conjugales, mais de toute relation. Je vous exhorte à considérer à quel point vous avez affiné votre séparation des autres, votre unicité par rapport aux autres, votre singularité et votre intégrité pour les autres. N'oubliez pas qu'une relation est aussi bonne que ce que les individus impliqués y apportent. Si vous avez aimé cet enseignement, ce moment de qualité d'échange et vous voulez prendre part à nos formations, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp ou Telegram Le numéro est le suivant, plus 225 07 47 85 51 31. Et vous ferez partie de notre communauté pour prendre part à ces enseignements enrichissants. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est Souveraine Amwako, épouse à Lobo. L'omelette est aussi bonne que les œufs qu'elle contient. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous verrons ça à la suite de nos différents chapitres. Mais comme toute omelette, cela... Le résultat dépendra de la qualité des œufs utilisés. Ainsi prend fin notre premier chapitre. Qu'est-ce que vous apprenez? Qu'est-ce que vous retenez? Quelles sont les notes que vous en tirez? Partagez avec moi dans notre communauté. Dites-moi comment ce chapitre vous fait revoir le célibat. Vous faire revoir cette étape à laquelle tout se passe. Et dites-moi comment vous comptez mieux vivre cette étape. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à 45 minutes. Qu'il nous permette de voir les choses comme lui voit et apprécier chacune des phases de cette belle vie qu'il nous donne. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père, nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour cette connaissance. Nous prions, Seigneur, que cela change notre paradigme, notre mentalité, notre manière de voir, que nous puissions mieux nous apprécier, mieux nous valoriser, mieux comprendre que tu nous as créés uniques, entiers, à part. Vivre pleinement dans cette étape avant de pouvoir servir une autre personne avec ses qualités. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et rendez-vous au prochain. Shalom.